L'Ancien Testament, parfois, quand on le lit, on a l'impression que c'est assez violent, parfois, c'est assez sanguinaire. Et j'ai réfléchi à cela hier. Moi, j'ai grandi à une époque qu'on appelait la guerre froide. Mais pas beaucoup de sang. Mais je m'attendais, je me souviens quand j'étais encore à l'école primaire, je partais à l'école le matin en disant bah, peut-être le monde entier va exploser avec toutes ces armes nucléaires avant que je rentre ce soir. C'était comme ça qu'on pensait. Et je ne mangeais pas des carottes non plus, parce qu'il y avait des études qui montraient avec tous les tests de bombes atomiques qu'il y avait que les carottes apparemment retenaient la radiation plus que toute autre chose sur Terre. Et donc c'était la bonne excuse pour ne pas manger les carottes. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où la violence est revenue. La petite violence, mais quand je dis petite, pas, c'est pas petit pour ceux qui le subissent, mais je veux dire, ce n'est pas au niveau de grandes guerres, mais des petites guerres, terrorisme. Et puis, les mouvements de population, on en parle tout le temps. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que ça, de mouvements de population, des gens qui changent de pays. Donc, on est revenu à une époque où on comprend peut-être mieux l'Ancien Testament que lorsque j'étais plus jeune. Alors, ce que je voulais, avant même de regarder Amos, le prophète, je voulais juste regarder les grandes lignes de l'Ancien Testament. Parce qu'il faut, il faut se dire, mais pourquoi les prophètes? Et on voit dans l'Ancien Testament ce qu'on peut appeler la révélation progressive de Dieu. Donc les êtres humains s'étaient détournés de lui, on connaît bien cette histoire, dès les premières pages de la Genèse. Mais Dieu a cherché à revenir vers les êtres humains, à rétablir le contact avec les êtres humains. Donc la révélation progressive de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit d'abord avec les patriarches? Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Est-ce que les patriarches étaient des modèles? Bon, à certains endroits, oui, Abraham a cru, et donc ça lui fut imputé à justice. Mais il a menti au moins deux fois par rapport à sa femme, pour dire non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur, parce qu'il avait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Isaac? Bon, il a suivi le même chemin. Il a aussi menti. Et puis, Abraham avait la promesse qu'il aurait un enfant. Mais, encouragé par sa femme, il a fait le petit coup de pouce en allant coucher avec la servante. Ce n'est pas des modèles. Mais Dieu a montré son amour et sa grâce envers eux. Deuxième étape, la loi, Moïse. Dieu est un Dieu saint. La loi de Dieu, les 10 commandements. Alors là, c'est l'étape suivante. Parce que Dieu est, certes, amour, mais il est aussi saint. Et il fallait que, par toute la loi de Moïse, que le peuple comprenne qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on ne portera pas de faux témoignages. Donc là, c'était clair et net. Alors, Abraham, Isaac, ne pouvaient pas dire le contraire. Et Jacob, dont le nom veut dire même tricheur. Hein. Encore un patriarche, pas très. Bon, je vais dire catholique, non, c'est ça pas que ça veut dire. Pas orthodoxe, mais encore. Je ne peux pas dire ça non plus. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Mais la loi de Moïse est là, et là c'est clair. Ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Okay? Mais ça ne suffisait pas. Et c'est pour cela que la troisième étape, donc là chronologiquement dans l'Ancien Testament, on arrive au prophète. Pour que l'obéissance ne soit pas formaliste. Donc là, les prophètes ont vraiment appelé à ce qu'on peut appeler la repentance, à changer de comportement, à changer de pensée, parce que le minimalisme était devenu de mise. Bon, je donne un petit exemple, vous n'avez pas cherché dans votre Bible, mais dans le prophète Malachie, où Malachie reproche au peuple d'Israël d'offrir des sacrifices qui n'étaient pas dignes de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Donc les gens disaient, ouais, oui, il faut faire des sacrifices. Bon, cette bête-là est aveugle, bon, c'est celle-là que je vais offrir. Ou cette bête est boiteuse, bon, c'est celle-là que je vais offrir. Question de Malachie, typique des prophètes. Mais offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Donc, ce que l'on ne ferait pas sur le plan civil, on fait sur le plan religieux. C'est ça qu'il veut dire. Donc, les prophètes étaient là pour appeler tout le temps, pour avertir, pour dire, vous avez la loi, ok, c'est extérieur, mais est-ce que cette loi est vraiment dans votre cœur? Et c'est pour ça que c'est toute la préparation pour le Nouveau Testament, où là, on voit ce que cette conviction du péché permet de comprendre pourquoi Jésus est venu, parce que Jésus est venu comme sauveur. Et pour être sauveur, il fallait sauver de quelque chose, il était sauvé du péché. Et la personne qui n'est pas consciente du péché ne va jamais demander d'être pardonné ou sauvé. Donc on voit comment tout l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus. Donc ça c'était en introduction, avant même d'ouvrir les pages d'Amos, pour voir pourquoi il est important de lire l'Ancien Testament. Mais je vais revenir à ça un petit peu en conclusion. Ok, donc qui est Amos? Je vais lire les deux premiers versets. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozéas, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages du berger sont dans le deuil, le sommet du Carmel est desséché. Alors, qui est Amos? Première chose, c'est un berger. Un berger de la région de Tekoa. Et d'ailleurs, on anticipe un petit peu, mais au chapitre 7 d'Amos, il revient sur son métier en quelque sorte. Chapitre 7, verset 14. Où on lit, Amos répondit à Amatsia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est, je ne suis pas un prophète professionnel, en quelque sorte. Mais c'est ça, parce qu'il y avait des écoles de prophètes. Vous pouvez rentrer dans les écoles de prophètes, on les voit dans l'Ancien Testament. Et moi, oui, je suis berger. À la limite, je ne voulais pas faire ça, mais le Seigneur m'a dit de partir, donc, et il m'a envoyé vers le peuple d'Israël. Donc retenez cela, parce que je vais revenir à ça. Envoyé vers mon peuple d'Israël. Donc il était berger. La deuxième chose, c'est qu'il est le porte-parole du Seigneur qui rugit comme un lion. Ça, on voit au verset 2. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Quand un lion rugit, on fait attention. Quand Dieu rugit, on fait attention. Et c'est pour cela que le prophète, en quelque sorte, rugit au nom de Dieu. Si vous voulez le situer dans le temps, Amos, c'était vers 760 avant Jésus-Christ, donc il y a 2775 ans, c'est assez loin, mais on va voir quand même les prophéties très pertinentes. Donc si jamais cela vous dit, j'ai photocopié quelques chronologies de l'Ancien Testament et surtout des rois et des prophètes, donc vous pouvez le demander à la fin du culte. Ça peut, moi j'en ai toujours une dans ma Bible. Et ça sert quand même quand on lit l'Ancien Testament pour fixer à la fois les différents rois d'Israël et de Juda et les prophètes. Alors, qui est Amos? Maintenant, on va passer à une pensée pour mieux comprendre la suite. Parce qu'on va lire du chapitre 1, verset 3, jusqu'à la fin du chapitre 2. Donc, c'est un peu long. On ne s'arrêtera pas sur tous les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un texte très construit, parce que les prophètes utilisait aussi un peu le genre poétique. C'était des grands discours, en quelque sorte. Hein. On peut dire que le prophète est inspiré par Dieu, certes, mais en même temps, on a l'impression, quand on lit ces textes, qu'il a bien réfléchi à ce qu'il voulait dire, donc il les a écrits certainement avant de les prêcher, sinon tout de suite après, et on voit la même structure, parce qu'il va prophétiser contre toute une suite de peuples, et on voit chaque fois la même structure. D'abord, il dit, à cause des 3 crimes de tel ou tel pays, même de 4, je ne révoque pas mon ami. Ce qui veut dire, 3 suffiraient, mais 4 alors, là, le vase déborde. Et on a plusieurs reprises, là, cette structure, 3, voire 4, dans les prophètes, dans les proverbes, par exemple. Il y a plusieurs proverbes qui parlent de cette façon-là. Donc, c'est une expression hébraïque pour dire, ça suffit. Pour 3 crimes, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Deuxième chose, pourquoi cet arrêt, pourquoi cette décision? Parce que, excusez-moi, il y a un mot qui manque, parce qu'ils ont mal agi. Parce qu'ils ont mal agi, ils ont péché de différentes façons. Donc, le Seigneur doit intervenir. La troisième chose, c'est que Dieu va donc intervenir pour juger et châtier. Il explique pour chaque nation comment il va intervenir et ce qu'il va faire. Donc, on va voir à plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reprises, la même structure au cours de ces 2 chapitres. À cause de 3 ou 4 crimes, même de 4, parce que vous avez fait ceci, donc le Seigneur dit qu'il va intervenir. Maintenant qu'on a la structure dans la tête, on va passer à la suite. Et la suite, c'est une carte. C'est la seule, c'est ma dernière diapo, mon dernier mot ce matin, c'est une carte. Parce que ça va nous permettre de comprendre, en fait, la démarche très, à la limite, pédagogique, mais en même temps émotive de d'Amos. Parce qu'il va s'adresser tour à tour à toutes sortes de nations. Donc je vais juste rappeler, donc ici on a la Méditerranée, là c'est l'île de Chypre, l'Égypte ici, ici c'est Israël. Alors qu'à cette époque, le pays était divisé en 2, hein, vous rappelez les 2 royaumes. Le royaume du sud s'appelle Juda, Jérusalem c'est la capitale. Le royaume du nord, c'est Israël, Samarie, c'est la capitale. De ce côté, ici, on a les 2 grands fleuves, Tigre et l'Euphrate, avec les 2 grands empires, les Assyriens, donc capitale Ninive, et les Babyloniens dans un deuxième temps, donc capitale Babylone. Et cette carte, en fait, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais c'est une carte qui montre l'extension, en fait, de l'empire assyrien. Donc, c'était là dans un premier temps, là dans un deuxième temps, et le Pâle dans un troisième temps. Donc, c'est tout l'empire assyrien.
C'est quoi
Tekoa, c'était trop petit pour être sur cette carte.
Tekoa,
c'est un bled perdu, on peut dire. Donc, c'est dans la montagne quelque part, mais bon... On peut regarder sur notre carte. Et donc, toute cette région-là, c'est ce que l'on appelle aussi, si vous avez fait un petit peu d'histoire, vous rappelez l'expression, le croissant fertile, parce que, fertile parce qu'il y avait les fleuves ici, et puis là, c'est plus près de la mer. Et quand les Babyloniens, et, par exemple, venaient attaquer Israël, les prophètes disaient toujours, attention, ils viennent du nord. Pourquoi ? On peut dire qu'ils sont à l'est, mais il fallait qu'on fasse ça, parce que là, c'était le désert. Donc, quand on parle du danger qui vient du nord, c'est parce que c'était le passage obligé pour y arriver, si on veut. Okay? Donc voilà, il y a plein de noms que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, plein de noms que moi, je ne connais pas. Paul de Tarse, qui a écrit un livre C'est que Romain, par exemple. Voilà, donc voilà, c'est Tars. Alors, on va regarder la suite de ceci. On ne va pas rester dans le détail, mais c'est simplement pour voir la démarche, en fait. Donc, n'oublions pas que Amos, d'ailleurs, je réponds un peu à ta question, Tekoa, c'était en Judée, en fait, en Juda. Et il est envoyé vers Israël. Okay. Donc, ça, c'est important de savoir. J'ai dit tout à l'heure, il dit, j'ai été envoyé à en Israël. Alors, du verset 3 au verset 5, il s'adresse, bon, il parle des Syriens. Maintenant, il faut savoir que Amos n'est pas allé en Syrie, il a été envoyé en Israël. Donc, c'est les 10 tribus d'Israël qui écoutent sa condamnation de Syrie. Il n'a pas été envoyé aux Syriens en tant que tel. Donc, ils disent. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Damas, parce qu'ils ont foulé Galaad sous les traîneaux de fer. Galaad, c'est la région à l'est, ici, du Jourdain. Ils ont foulé Galaad sous les traîneaux de fer, j'enverrai le feu. Dans la maison d'Azraël, il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bicat Aven les habitants et de Ben-Eden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir. Alors, tout d'un coup, il ne sait plus à Kir. Il ne voit pas là-dessus. Mais bon, le ton est donné. Les Syriens avaient attaqué une partie du territoire d'Israël, Galaad, mis sous les traîneaux de fer, mais le Seigneur Dieu enverra le feu dans la capitale. Okay. Et là, on peut imaginer le peuple d'Israël dire « Waouh, ça c'est bien, je suis content qu'Amos soit venu, hein, parce que là, on voit que Dieu va intervenir, moi vraiment ce... » qui disent que là, c'est bien. Deuxième pays dont il est question, c'est Gaza. La bande de Gaza qui existe toujours, de nos jours, Gaza. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza. Il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, là encore, qu'est-ce qu'ils ont fait Les Philistins habitaient Gaza, ont vendu les victimes de guerre comme esclaves aux Édomites. C'est ça qui est dit au verset 6. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. C'est pour ça que le feu sera envoyé dans ces villes de Gaza, Asdod, Ascalon, Écron. Là encore, le peuple d'Israël il dit wow, enfin, Dieu va intervenir, c'est pas juste toutes ces choses-là. C'est comme on entend des histoires de Boko Haram, etc. Il dit maintenant là, non, Dieu va vraiment intervenir. C'est bien. Je suis content que Amos ait été envoyé chez nous pour nous le dire. Troisième chose maintenant, c'est Tyr. Tyr et Sidon, deux grands ports, riches, commerçants, c'est le Liban actuel. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont livré Édom et une foule de captifs. Sans se souvenir de l'alliance fraternelle, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr et l'on dévorera les palais. Donc, non seulement ils ont vendu des victimes de guerre comme les Philistins, mais ils n'ont même pas respecté une alliance qu'ils avaient faite entre Tyr et Sidon et Israël. Et à cette époque-là, la parole prononcée était sacrée. Donc avec Marie, on disait cette semaine une drôle d'histoire avec Jephté dans les juges qui promet à Dieu que la première personne qu'il voit après la victoire, il va le sacrifier en souvenir ou en remerciement d'une victoire militaire et qui est la première personne qu'il voit, sa fille unique. Mais il le fait. La Bible ne fait pas de commentaire, sauf que l'on comprend combien donner sa parole, la parole donnée, nous engage devant Dieu. Donc voilà pour dire, les Israélites sont toujours contents d'entendre toutes ces condamnations des pays environnants. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel à cause des trois crimes d'Édom, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Donc Édom, c'est là, c'est au sud. À cause de trois crimes d'Édom, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans le démon, il dévorera les palais de Botsra. Chaque fois la même condamnation, le même jugement, le feu qui va brûler la capitale, le palais. Donc qu'est-ce qu'ils avaient fait, Édom? Ils étaient connus dans l'Ancien Testament comme un peuple violent, colérique, qui étouffait la pitié, comme c'est marqué là. Il a tout fait sa compassion. C'est par Édom que le peuple d'Israël voulait passer en sortant de l'Égypte. C'est Édom qui dit non, vous ne passerez pas chez nous. Ils ont dû contourner. Et chaque fois qu'on parle d'Édom dans la Bible, c'est un peuple impitoyable. Alors Israël était content d'entendre cette condamnation dans la bouche de d'Amos. Verset 13. Maintenant, on va parler d'Amon. Ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes des enfants d'Amon, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabba et l'on dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour d'une tempête, mais leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Donc ils voulaient agrandir leur territoire, Rabba, qui est à l'est d'Israël, c'est aujourd'hui Amman, donc Amman, l'actuelle capitale du Jordanie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient agrandir leur territoire, de nouveau la violence. On a du mal à comprendre que même qu'un militaire puisse vouloir fendre le ventre d'une femme enceinte. Mais quand on voit le terrorisme maintenant, on en voit comme récemment au nord du Cameroun, une jeune fille de 8 ou 9 ans bourrée d'explosifs dans un bar. C'est horrible. On en a presque pas parmi ici d'ailleurs. Ça s'est passé quand j'étais au Mexique et les Camerounais qui étaient là m'en parlaient. J'ai cherché sur Internet à mon retour, mais les informations n'en parlaient pratiquement pas. Donc, de nouveau, condamnation de ce pays. Et puis, le sixième, Moab. Moab, à l'est, la mer morte. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Moab, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, il dévorera les palais de Kerijot, et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Qu'est-ce que Moab avait fait de mal? Il n'avait pas respecté un ennemi, un roi mort, le roi de Moab, calciné, Et là, ça ne concernait ni Juda ni Israël. Mais Dieu a quand même condamné cet acte, parce que ce n'était pas le respect du cadavre de cette personne. Et là encore, on peut imaginer les habitants d'Israël, les auditeurs d'Amos qui disent « Waouh, c'est bien, il mérite bien cela, vas-y Amos, prêche ta parole mon frère !» On peut imaginer une église quelque part dans le Bronx, « Vas-y, vas-y, prêche !» Puis, il arrive, septième pays, « Ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes de Juda. » Là, on s'approche. C'était un petit peu les frères ennemis, hein, Israël et Juda. « Ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes de Juda, même de quatre. Je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Ils n'ont pas gardé ses ordonnances parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leur père avait adorées. J'enverrai le feu dans Juda. Il dévorera les palais de Jérusalem. » Et je crois que là, les auditeurs disaient encore plus, « Ouais, c'est ça, ce peuple Juda qui se croit supérieur parce qu'ils habitent à Jérusalem, parce qu'ils ont le temple et tout ça. Ah oui, Amos a bien raison de les condamner. » On arrive au verset 6. « Ainsi parle l'Éternel. » À cause de trois crimes d'Israël, même de quatre. Je ne révoque pas mon arrêt. Donc, Amos l'a bien préparé, il a condamné tout le monde, et puis finalement, par petit sac, il arrive jusqu'en Israël. Et je vais lire jusqu'à la fin du chapitre. Je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent. Et le pauvre pour une paire de souliers. Ils espèrent avoir la poussière de la terre sous la tête des misérables. Ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sous les vêtements pris en gage. Ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qui condamnent. Et pourtant, bon, je vais m'arrêter là un moment. Qu'est-ce que Amos reproche? L'injustice sociale, ils vendent le juste pour de l'argent, et c'est toujours le cas. Vous savez que 10% de la population du monde possède 85% des richesses du monde, et 50% de la population du monde possède 1%. Nous, on n'est pas plus de 10%. L'injustice sociale, l'immoralité sexuelle. Le père et le fils vont vers la même fille. Est-ce que c'était la prostitution sacrée? Est-ce que c'était vers une servante? Les commentateurs hésitent. L'idolâtrie. Ils boivent devant leur Dieu, mais même avec les vêtements pris en gage. Et la loi de Dieu empêchait les personnes de prendre des vêtements et de les garder en gage, parce que c'était le seul bien qui restait. Même aujourd'hui, hein, quand on peut, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de confisquer. Les personnes, les huissiers n'ont pas le droit de prendre, parce que c'est l'essentiel, hein, le vêtement de quelqu'un. Et pourtant, et on va voir, et pourtant, Dieu leur avait donné un pays, il avait envoyé des prophètes. Verset 9. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, et pour les occupants du pays, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. Et j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. Donc, qui avait fait le vœu de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire de l'alcool pendant un certain temps. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas.
Voici. Je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra pas fuir. Celui qui est la force ne pourra s'en servir. L'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers ne s'échappera pas. Le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. On va voir par la suite qu'il s'agit en fait du début d'une série de prophéties qui annonce le fait que en 722, enfin ça s'est passé en 722, que le peuple d'Israël a été amené jusqu'à Ninive en exil, loin de leur pays, comme punition de tout le mal qu'ils avaient fait. Alors, conclusion de tout cela. On n'a pas le temps de voir tous les détails de tout cela, mais vous voyez quand même que Amos a finalement est arrivé à toucher le but de sa prédication, de parler au peuple d'Israël, qui n'était pas différent des autres. Deux conclusions, je pense, que l'on peut tirer. La première conclusion, je l'ai fait un peu en introduction, pour bien comprendre la révélation progressive de Dieu à travers l'Ancien Testament. Parfois dur à lire, mais sans l'Ancien Testament, on ne comprend pas le Nouveau Testament. On ne comprend pas pourquoi Jésus a dû venir comme Messie promis pour nous sauver. Et il fallait que on parle beaucoup de migrants en ce moment, tout le peuple d'Israël était des migrants enlevés et envoyés à Ninive, en Assyrie. Mais c'était le plan de Dieu pour eux, pour qu'ils se rendent compte du mal qu'ils avaient fait. Ils connaissaient la loi de Dieu, mais ce n'était pas dans le cœur. Ça, c'est le plan historique. Mais je me suis dit, pour nous, quelle conclusion tirer? Et je crois que là, les prophètes de l'Ancien Testament ont encore le mot à nous dire. Parce que je sais que pour moi-même, il est tellement, tellement facile de voir tous les problèmes du monde et de dire, ah oui, mais le gouvernement de ceci, ou le parlement là, ou cette armée-ci, ou les terroristes là, etc., qui causent tous les problèmes du monde. Je ne veux pas dire contraire dans ce sens. Juste avant de quitter la maison ce matin, je lisais un petit article dans un journal comme quoi une étudiante sud-africaine a été destituée de son rôle dans le comité étudiant de son université parce qu'elle avait mis sur Facebook qu'elle n'était pas d'accord avec le mariage pour tous. Bon, ça, c'est devenu courant. Et c'est tellement facile de dire, ah oui, mais là, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et Amos, donc, il arrive, les autres, oui, Dieu va intervenir. Mais vous, Israël. Donc on peut dire la même chose pour nous. Chaque fois qu'on dit, ah, le monde va à la dérive, le monde va mal. Oui, on ne va pas dire le contraire. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on écoute la parole de Dieu pour dire, je veux vivre pour lui dans cette situation? Je veux confesser mes péchés. Je veux apprendre à aimer les frères. Je veux apprendre à aimer les autres. Je veux prier pour que justice soit faite. Je veux annoncer la bonne nouvelle à ceux qui souffrent et qui sont dans le déni de l'existence de Dieu. Qui pensent que Dieu n'existe même pas. La belle phrase de Blaise Pascal, elle dit, ils sont comme un bras, qui dit, moi je suis un bras, mais un bras c'est tout ce qui existe, parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a un corps. Et les êtres humains sont comme cela aussi, ils ne savent même pas que Dieu existe, et puis ils essaient de vivre sans. Donc nous, notre première préoccupation doit être, comment nous en vivre. Et cela, je reviens au Nouveau Testament. Combien de versets du Nouveau Testament nous disent clairement que les chrétiens doivent annoncer l'évangile autour d'eux. 4, 5 peut-être. Pas plus. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est la qualité de notre vie en tant que chrétien. La qualité individuelle, la qualité collective, notre communauté, la qualité de notre vie envers les autres. Et quand on a ça, là, le cœur va parler de ce qui, la bouche va parler de ce qui est dans le cœur. Et les gens vont écouter. Donc, la première conclusion que je tire en cette rentrée, c'est que le Seigneur nous vise, nous, d'abord, nous tous, moi compris. Et je crois que ça, c'est un message qu'on peut tirer de ce texte d'Amos, ce matin.